divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la libre pensée. Annie Lacroix-Riis, professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris 7. On a coutume de présenter la défaite de 40 de la France comme une sorte de malédiction technique, puisque la France aurait été mal gouvernée par des hommes politiques recevant trop d'informations, ne les connaissant pas bien ou ne les maniant pas bien, par des militaires gâteux qui n'auraient pas été capables de s'adapter aux conditions nouvelles d'une guerre de mouvement et qui auraient prôné la défensive sans s'être rendu compte que l'Allemagne prônait l'offensive. C'est une thèse qui est défendue de plus en plus aujourd'hui, qui apparaît par exemple dans un récent numéro spécial d'une revue de grande diffusion qui s'appelle L'Histoire, et qui ne tient malheureusement aucun compte des acquis offerts par les sources aujourd'hui. Or, il faut le dire, ces acquis offerts par les sources confirment l'analyse de beaucoup des contemporains qui ont accompagné la guerre elle-même, et en particulier l'un des plus prestigieux d'entre eux, l'historien médiéviste mais observateur de son monde contemporain, c'est-à-dire Marc Bloch, qui en avril 1944, dans une revue clandestine, à quelques semaines de son assassinat par la milice, a fait une analyse qui est à mille lieues de l'analyse dont je viens de parler tout à l'heure. Je la lis parce qu'elle fournit au fond le cadre de ce qui a été ma recherche dans deux ouvrages récents qui s'appellent d'une part « Le choix de la défaite, les élites françaises dans les années 1930 » et d'autre part « De Munich à Vichy ». L'assassinat de la Troisième République, 1938-1940, tous les deux parus en 2008 et 2010 pour la deuxième édition du Choix de la défaite chez Armand Collin. Marc Bloch faisait donc l'analyse suivante. Un jour viendra, et peut-être bientôt, où il sera possible de faire la lumière sur les intrigues menées chez nous de 1933 à 1939, en faveur de l'axe Rome-Berlin, pour lui livrer la domination de l'Europe en détruisant de nos propres mains tout l'édifice de nos alliances et de nos amitiés. Les responsabilités des militaires français ne peuvent se séparer sur ce point de celles des politiciens comme Laval, des journalistes comme Brinon, des hommes d'affaires comme ceux du Creusot, des hommes de main comme les agitateurs du 6 février. Mais si elles ne sont pas les seules, elles n'en apparaissent que comme plus dangereuses et plus coupables pour s'être laissées entraîner dans ce vaste ensemble. La hiérarchie des cinq principaux responsables, groupes responsables de la défaite de Marc Bloch était ainsi établie. Les militaires, considérés comme les plus responsables, les politiques ou assimilés, c'est-à-dire les hommes politiques en général, la presse, les hommes d'affaires comme ceux du Creusot. Il s'agissait évidemment de la firme Schneider, puisque la firme Schneider du Creusot possédait pratiquement la Tchécoslovaquie et qu'elle peut être considérée comme la principale responsable de la liquidation de la Tchécoslovaquie par les accords de Munich en septembre 1938. Et enfin, les agitateurs du 6 février, les hommes de main, c'est-à-dire ce mouvement du 6 février 1934, dans lequel nombre d'historiens voient simplement une sorte de révolte de la droite classique, républicaine et de l'extrême droite contre les débordements scandaleux de la République et l'état du parlementarisme. On a la chance depuis au moins 10 ans que les sources se soient ouvertes. Elles avaient été longtemps fermées, elles l'ont été pendant 60 ans. Et l'ouverture de ces sources permet aujourd'hui à la fois d'avérer l'analyse de Bloch et de modifier la hiérarchie qu'il a établie. Il se trouve que dans les années de recherche qui ont abouti aux deux ouvrages dont j'ai parlé tout à l'heure, je suis arrivée à la hiérarchie suivante. D'abord, ce qu'il appelle les hommes d'affaires, et que j'appelle les hommes du grand capital, c'est-à-dire la fraction la plus concentrée des milieux économiques, qui, on l'ignore, en tout cas pour cette période, domine toutes les autres catégories, et donc modifie la hiérarchie envisagée par Bloch. Pourquoi joue-t-il un rôle aussi essentiel ? D'abord parce qu'ils sont les maîtres de la politique économique, de fait, malgré le rôle de l'État, parce qu'ils sont les maîtres de la vie politique et de la vie politique au sens large, en y incluant bien sûr les moyens d'information. Les politiciens, il ne s'agit pas seulement de l'aval, pour reprendre la liste, il ne s'agit pas seulement des hommes de droite et d'extrême droite, mais il s'agit d'un ensemble de responsables qui ont inclus la gauche dite de gouvernement qui, face à la crise, a trouvé que, au fond, les projets des responsables de l'économie, c'est-à-dire ces projets de renforcement de l'État, ces projets dits de réforme de l'État, seraient au fond bien commodes pour gérer la crise. Il permettrait en effet de se passer d'institutions gênantes, alors même que le grand patronat avait besoin de réduire les salaires directs et indirects, de les réduire de manière drastique, en trouvant des modèles, d'abord en Italie fasciste, puis en Allemagne pré-hitlérienne et hitlérienne, puisque aucun pays mieux que l'Allemagne n'a réduit de manière drastique les salaires directs et indirects. De sorte que, pas seulement pour la droite et l'extrême droite, mais aussi pour une fraction de plus en plus grande de la gauche de gouvernement, finalement, la renonciation à un certain nombre des acquis de la masse de la population apparaissait comme la meilleure solution pour sortir de la crise, maintenir les profits et, évidemment, casser les salaires. Alors, me dira-t-on, des politiciens de gauche, eh bien, dans les projets du grand capital, s'est déclenché très vite, à partir des années 1920 et de l'expérience fasciste en Italie, l'idée que, après tout, une solution très autoritaire serait excellente. Elle passerait évidemment par une réduction ou une disparition du Parlement, qui était gênant, par une réduction ou une disparition des partis au service de la population, qui pouvaient faire obstacle aux mesures sévères contre les salaires. Et tout ceci est passé par une organisation politique dans laquelle on ne trouve pas que la droite, l'extrême droite, mais je le dis aussi partiellement, la gauche de gouvernement, dans la mesure où, après tout, elle trouvait les solutions développées dans les milieux les plus concentrés de l'économie, astucieuses et pertinentes. En effet, dès les années 1920, et sur la base de ce qui était considéré comme la réussite du fascisme, se sont constitués des groupes à l'intérieur du grand patronat, dont le principal est ce qu'on appelle la synarchie. Je n'ai pas le temps ici de développer, on nous explique volontiers aujourd'hui que la synarchie n'existe pas. La synarchie existe, les sources le prouvent, et elle est constituée d'un ensemble de 12 décideurs en 1922, une cinquantaine de décideurs dans les années 1930, qui détenaient suffisamment de pouvoir pour convaincre les hommes politiques, les journalistes, les hommes de main et les militaires, éventuellement, de contribuer à leur projet. Les hommes politiques, je l'ai dit, il y a la droite et l'extrême droite qui ont eu dans la crise tendance à fusionner, de manière de plus en plus nette au fil des années de crise. et un certain nombre de représentants de la gauche de gouvernement qui, soit de manière active, soit de manière passive, ont été associés à des projets de liquidation de la République. Alors aujourd'hui, c'est une problématique qui est repoussée au motif que étudier un complot, étudier une conjuration, étudier une stratégie relèverait d'une conception historique du complot et que, en soi, cette seule tentation, évidemment, doit être combattue et la question, en quelque sorte, ne sera pas posée. Comme je le dis souvent à mes étudiants, personne ne se pose la question de savoir si Allende est tombé tout seul, puisque nous avons la chance que les archives américaines soient déclassifiées très vite et qu'on puisse, sur la seule base des archives publiées, vérifier que, en effet, les États-Unis ont largement contribué à assurer la chute d'Allende. Eh bien, il faut savoir que les archives françaises et les archives étrangères permettent d'établir de manière aussi formelle que les projets dont j'ai parlé étaient prêts déjà en partie dans les années 1920 et tout à fait prêts en 1934, puisque c'est à la faveur de la première de ces opérations d'étranglement de la République qu'a été instituée la formule qui est finalement venue au jour dans le cadre de la défaite, c'est-à-dire l'aval et ce qu'il appelait peu aimablement le dessus de cheminée, c'est-à-dire Pétain, qui était considéré par le grand capital et notamment par ses chefs. Je pense en particulier à François de Vindel, régent de la Banque de France et premier personnage du comité des forges. Il faisait partie de ceux qui pensaient qu'il valait mieux liquider la République et que Pétain, un chef militaire plein de prestige, serait à cet égard une personnalité importante. Cette synarchie, elle s'est appuyée sur, d'une part, des hommes politiques, d'autre part, des hommes de main. Les hommes politiques et les hommes de main, et là, on sort de la gauche de gouvernement, on les trouve à droite et dans l'extrême droite, c'est-à-dire les ligues fascistes, qui se sont développées en France suivant deux étapes, une dans les années 1920, l'autre dans les années 1930, l'une et l'autre fusionnant, certaines d'ailleurs nées des années 20 s'étant développées dans les années 30 et étant à la jonction des deux périodes. Et ces ligues se sont, en 1935-1936, sans disparaître elles-mêmes, fusionnées en ce qu'on appelle la cagoule. La cagoule qu'on nous présente aujourd'hui volontiers comme une sorte de petit mouvement fantaisiste de romantisme inspiré par le romantisme noir et plutôt inoffensif finalement. La cagoule a disposé de moyens gigantesques, mis à son service par la synarchie, car elle a fonctionné comme une sorte de bras armé de la dite synarchie. Et il faut savoir qu'elle était constituée, d'une part, bien sûr, d'hommes politiques ou d'hommes de main. Le meilleur spécialiste de la cagoule et des ligues, c'est-à-dire le juge d'instruction Pierre Béteil, qui a été amené à connaître de la question de 1936 à 1940, disons fin des années 1940, puisqu'il a été un des grands juges d'instruction des grands procès d'après-guerre. Pierre Béteil, donc, faisait l'analyse que la cagoule représentait en 1939 à peu près 120 000 personnes, dont 20 000 dans l'armée, puisqu'il y avait donc une cagoule civile et une cagoule militaire, et qu'à la tête de la cagoule militaire constituée de 20 000 hommes et avec évidemment une direction étroite, on trouvait rien moins que d'une part Pétain, d'autre part Végan, et que, pour vous citer les autres, il faudrait que je donne à peu près toute la composition des éléments militaires de Vichy. Si je passais aux éléments civils, il faudrait que je donne la composition de la synarchie, puisque on retrouve dans les postes civils et en particulier dans les postes militaires tous les hommes qui avaient institué les plans de liquidation de la République dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans ce dispositif, les journalistes jouaient bien sûr un rôle, journaliste dont les journaux étaient détenus par les éléments du grand capital dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque des journaux aussi importants que Le Temps, c'est-à-dire le prédécesseur direct du Monde, appartenaient pour 80% au comité des Forges, le reste étant assigné au comité des Houillères et à d'autres comités, sans parler de la Banque de France. Eh bien, dans ce cadre-là, évidemment, ce qui a déterminé la défaite, c'est que le grand capital, qui voulait une classe ouvrière ou des salariés tranquilles, ne voulait pas non plus se battre contre l'Allemagne, qui avait un rôle déterminant à la fois sur le plan commercial et sur le plan financier. Il fallait en effet vendre à l'Allemagne les produits dont on n'avait pas besoin en France puisqu'on ne préparait pas la guerre contre l'Allemagne. Et il fallait d'autre part tenir le plus grand compte des desiderata de l'Allemagne car l'Allemagne était un énorme débiteur dont la liquidation avait failli détruire le système capitaliste dans la crise systémique de 1931. Pour ne pas déplaire à l'Allemagne, le grand capital a orienter la politique de la France vers tout ce qui pouvait conduire à un compromis avec l'Allemagne. Le problème était que l'Allemagne, elle, ne voulait pas renoncer à la guerre et que, dans ces conditions, le mélange a été détonnant, puisqu'aussi bien l'Allemagne s'est trouvée en mesure de réaliser la défaite, c'est-à-dire de faire elle-même une guerre sans trouver en face d'elle de quoi résister à ce conflit. Ce qui explique que la France se soit trouvée de fait vaincue dans les quelques jours qui ont suivi l'assaut du 10 mai 1940.